Eh bien, merci d'être venu ce matin, en ce samedi matin.
Merci au courageux.
Est-ce que Hugo Bellagamba peut arrêter de parler, s'il vous plaît? Merci. Je rêvais de dire ça. 50. Ouais. Donc, nous avons une conférence sur Régis Messac ce matin, un auteur à reconnaître, avec son petit-fils. Olivier Messac, et avec Natacha Vazder, et tous les deux, notamment parmi toutes les publications, ont fait Régis Messac l'écrivain journaliste à reconnaître, avec des essais, des textes, des articles. Natacha et Olivier ont toute une présentation, donc je vais faire le PowerPoint, et puis on se fera quelques questions juste après. À vous.
Voilà. Attends, je récupère le micro, c'est plus pratique.
Il y en a un là ?
Oui, mais c'est plus pratique avec sans le fil. Voilà. Donc, merci aux courageux qui sont venus en cette heure matinale pour cette conférence. Voilà, donc Stéphanie Nico m'a demandé, nous a demandé de présenter Régis Messac. Alors, pour une raison bien simple, nous sommes évidemment sur le 75e anniversaire. Attendez, vous m'entendez là ?
Non.
Bien. Là, c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Oui, donc, je vous disais que Stéphanie Nico nous a demandé donc de faire cette intervention sur Régis Messac pour deux raisons. D'abord, parce que en cette année donc 2015, nous fêtons les 70 ans donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également parce que Régis Messac a disparu, donc écrivain d'anticipation, grand écrivain d'anticipation, grand théoricien également, donc a disparu en 1945 dans un camp de déportation ou dans une marche de la mort. Je vous en parlerai donc à la fin de cette présentation. Voilà. Nous avons pris soin de faire un PowerPoint avec des documents totalement inédits, avec des photos pour vous donner quand même une représentation un petit peu imagée, évidemment, de qui était Régis Messac, donc cet auteur des années 30 et des années 40. Et comme ça, vous aurez évidemment une vision un petit peu plus nette de cet écrivain. Voilà, donc Régis Messac, écrivain d'anticipation, voyage d'un pacifiste vers la nuit et le brouillard. Je fais bien évidemment référence à sa déportation, donc Nahrtoun Nebel. Si nous évoquons aujourd'hui devant vous, donc aux imaginales, la figure de Régis Messac, c'est à double titre. D'abord parce que Régis Messac fut un des exégètes de la science-fiction, évidemment en France, mais aussi un de ses écrivains des années 30 aux années 40, bien avant évidemment René Barjavel. Pour évidemment évoquer une figure connue. Mais le nom de Messac évoque aussi un des destins, je dirais, les plus tragiques de la science-fiction au XXe siècle, une carrière plus que prometteuse qui fut totalement brisée par la guerre. Alors qu'il venait de créer la première collection des hypermondes, ou alors on lance le diaporama peut-être ? Hein, tu contrôles ? D'accord. C'est bon ? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, je vous disais, alors qu'il venait de créer la première collection de science-fiction en France, je l'évoquerai un petit peu plus tard, qui s'appelle donc Les Hypermondes. Il est arrêté en mai 1943 à Coutances, en Normandie, par les Allemands pour fait de résistance et déporté donc Nahrtoun Nebel en novembre de la même année au camp donc de Natzweiler Struthof en Alsace pour vraisemblablement, mais ce n'est qu'une hypothèse parce que nous n'avons pas réellement, évidemment, de preuves, mourir au camp de concentration donc de Dora ou dans une marche de la mort entre février et avril 1945, quelques semaines avant la libération du camp donc par les Alliés. Régis Messac était également un ancien poilu de la Première Guerre mondiale et aussi un pacifiste convaincu, et ça, évidemment, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, donc, devant vous, je vais évoquer cette vie totalement dévouée aux littératures de l'imaginaire, mais aussi à l'engagement pacifiste. Messac, résistant de la première heure, fut également un martyr littéraire et la fin de sa vie témoigne d'un courage moral et physique lors de ce voyage terrible dans les camps nazis. Mourir quelques semaines avant l'évacuation des camps, mourir alors qu'il avait pressenti l'arrivée de la science-fiction américaine bien avant les années 50, mourir alors qu'il avait tant à écrire et à inventer. Il faut aujourd'hui lire toutes ses œuvres rééditées par les éditions Ex Nihilo et connaître Régis Messac pour le faire revivre et ne pas le laisser dans le brouillard et les ombres concentrationnaires qui ont été évoquées notamment par Vercors dans sa nouvelle Le Songe. Alors, dans une première partie, oui, tu peux revenir un peu en arrière, Jérôme. Voilà la photo d'après. Dans une première partie, je vais donc vous parler de Régis Messac, théoricien et écrivain de l'anticipation, de l'utopie et de la science-fiction. Alors les premières photos que nous avons, donc ça on y reviendra un petit peu après, c'est notamment une photo qui date de 1918, Olivier, je ne me trompe pas, 18, voilà, et qui représente donc Régis Messac, très jeune bien sûr, donc en uniforme bleu horizon, hein, qui était l'uniforme donc des poilus, mais pas le premier évidemment uniforme des poilus pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce nom de Régis Messac évoque pour un grand nombre de spécialistes et d'érudits, je les cite, Jean-Jacques Briden, Boris Vian, Raymond Queneau, puisque je rappelle que Boris Vian fut quand même l'un des promoteurs donc, de la science-fiction en France dans les années 50. Donc Raymond Queneau, Jacques Bergier, Georges Gallet, un théoricien de la conjecture rationnelle et de la littérature utopique. Pierre Versin lui a consacré notamment un long article dans son encyclopédie de l'utopie, de la science-fiction et des voyages extraordinaires, donc en 1972. Donc avant la réhabilitation de son œuvre entreprise par les éditions Ex Nihilo, Régis Messac était reconnu en tant que romancier d'œuvres d'anticipation comme Queen Zinzinzili, La Cité des Asphyxiés ou par exemple Val Crétin. Il mena en réalité des carrières professionnelles parallèles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir sur Régis Messac. Donc outre le fait qu'il était évidemment professeur agrégé donc, dans le secondaire, professeur donc, de grammaire et professeur de lettres classiques, il a mené une carrière donc, de journaliste dans des parutions un petit peu donc, atomisées, une carrière donc, évidemment d'écrivain et une carrière aussi donc, de théoricien, parce que outre la science-fiction, alors ce n'est pas le sujet évidemment aujourd'hui, mais Régis Messac est également connu pour avoir écrit et évidemment soutenu la première thèse en France sur le roman policier, le Detective Novel, qui a été réédité en 2011. Voilà, et qui a obtenu donc le prix Maurice Renaud. Voilà. Alors, je vous ai mis également, en tant que pédagogue, Régis Messac a écrit une sorte de pamphlet qui s'appelle « La balle latin », qui a été réédité, qui évidemment est totalement d'actualité aujourd'hui. Et il faut bien sûr relire ce texte parce que Messac était aussi, d'un point de vue pédagogique, très en avance sur son temps. C'est quelqu'un, par exemple, alors que les études littéraires étaient totalement dominées par la figure donc de Gustave Lançon, qui était donc un historien des littératures, eh bien a été le premier, par exemple, à proposer des études thématiques qu'on va retrouver dans l'éducation nationale et à l'université dans les années, voyez, 60, 70, 80, qui ont été abandonnées dans les années 80, mais voyez, avec presque, je dirais, 50 ans d'avance. Et bien sûr, à bal latin est totalement d'actualité aujourd'hui. Voilà. Il a été également professeur pendant 5 ans à l'université donc McGill, romancier, donc journaliste évidemment aussi dans la presse écrite entre les années 1920 et les années 1940, et principalement donc dans la revue que vous avez ici, la revue des primaires, de 1930 à 1939, année de la dernière livraison de la revue, censurée et jamais parue pour cause de tracasseries administratives, notamment le dernier numéro qui date de 39, Olivier, ou de 40. 40, voilà, de 1940 évidemment. Voilà. Ce soir, dans la table ronde donc, concernant les écrivains de science-fiction, donc résistants ou collaborateurs, nous allons revenir justement un petit peu sur l'histoire des revues, l'histoire de la censure allemande et comment les Allemands, évidemment, ont pris littéralement d'assaut les maisons d'édition françaises. Voilà. Alors, deux lignes directrices ont guidé l'activité littéraire de Régis Messac. Il fut donc un critique et un chercheur hors pair, non seulement dans les marges littéraires de l'époque, donc je vous ai dit roman policier, roman populaire, littérature utopique, science-fiction, mais également de la littérature générale. Il a écrit beaucoup d'articles, bien sûr, sur les parutions donc, des romanciers des années 1930. Nous avons un article donc, dans cet ouvrage qui, évidemment, évoque donc, cette activité-là. Alors, il fut aussi un romancier reconnu, créant et publiant la première collection de science-fiction. Tu peux avancer un peu, Jérôme. Voilà, ça, c'est le Détective Novel. Après, voilà, on va s'arrêter là. Il y a deux images après, hein. D'accord ? Donc, il fut un romancier reconnu, créant et publiant la première collection de science-fiction en France. Donc, les Hypermondes, dont vous avez ici la maquette. Donc consacré à la guerre du lierre donc de David H. Keller, donc qui s'appelle Les Hypermondes, des romans d'anticipation, Le Miroir flexible en 1933, Queen Zinzinzili en 1935, qui est à ce jour qui a été donc réédité Olivier au à l'Arbre Vengeur, Queen's Azazili, mais quelle année? C'était 2007. Voilà. Et qui reste quand même dans cette petite collection donc, de l'Arbre Vengeur, qui est un éditeur donc, bordelais, Talensé. Donc c'est pour ça que j'en fais un peu la promotion aussi. Qui reste, je dirais, la meilleure de ses ventes quand même. Hein. C'est un roman qui, donc apocalyptique et post-apocalyptique, qui a énormément de succès. Alors, voyez sur cette collection des Hypermondes, ce qui est quand même intéressant, d'abord, c'est l'esthétique, si vous voulez, de la présentation, évidemment, de cette collection, avec un design assez moderne. Alors, bien sûr, on retrouve la police d'écriture des années 30, mais vous voyez, ça aurait pu devenir une grande collection, ce qui nous frustre, bien sûr, hein, par rapport à la disparition donc, de Régis Messac. Voilà. Alors, c'était également, je dirais, Régis Messac était un lecteur assidu des pulps américains. Il avait une grande collection, non seulement de pulps, évidemment, policiers, mais aussi donc, de science-fiction. C'était un connaisseur érudit de ce qui allait devenir donc, la science-fiction moderne, voyez. Et donc, évidemment, ça, c'est encore plus frustrant pour nous, parce que bien avant les années 50, Régis Messac avait totalement pressenti, finalement, l'importance de cette science-fiction donc, américaine. Alors, notamment, par exemple, vous donner donc, une anecdote. Lorsque Régis Messac est au Canada, donc en mars 1929, il était en correspondance avec donc, Hugo Gernsback, qui était bien sûr le créateur donc, d'Amazing Story, le grand pulp américain qui allait publier tous les grands noms donc, évidemment, de la science-fiction américaine des années entre 1920 et 1940. Et alors dans cette lettre, Gernsback demande notamment à Messac finalement de l'aider à continuer donc Gernsback avait eu de nombreuses difficultés donc éditoriales et il a demandé à Régis Messac de l'aider à poursuivre justement la collection. Alors je vous lis un passage quand même de cette correspondance parce que c'est intéressant. Je sais que vous comprendrez qu'en tant que créateur de la science fiction, donc comprendre science-fiction puisque c'était le premier terme utilisé par Gernsback, en Amérique, je suis en mesure, peut-être mieux que quiconque, de procéder à des choix de textes correspondant à la ligne science-fictionnelle que vous souhaitez le plus. En bref, mon ami, vous aurez un nouveau et meilleur magazine de science fiction, infiniment supérieur au vieil Amazing Story. Donc nous sommes en 29. Mais franchement, j'ai besoin de vous, de vos conseils, de vos suggestions. J'ai été le premier à publier de la science fiction dans ce pays, mais je ne connais pas tout. C'est vous, seulement vous, qui pourrez m'apporter par votre intervention les moyens de réaliser un meilleur magazine de science fiction. Voilà. Donc, vous voyez bien que grâce à ce petit extrait donc, de cette correspondance, Messac, là aussi, encore une frustration, aurait peut-être pu devenir finalement le directeur éditorial donc, du magazine de Gernsback, qui est quand même un des magazines fondateurs donc, de la science-fiction moderne. Malheureusement, Régis Messac va perdre un enfant et aussi, alors pour cette raison-là, mais également parce qu'il c'était quelqu'un qui adorait les Américains, l'esprit américain, mais il a été extrêmement déçu par son expérience à l'université McGill, et donc il décide de rentrer en France. Et donc évidemment, ça a brisé net ses ambitions par rapport évidemment à Gernsback. Voilà. Donc pour revenir aux éditions, donc les éditions pour vous expliquer un petit peu comment il a créé les Hypermondes. Donc ces éditions, cette collection des Hypermondes a été donc créée, je dirais, à l'enseigne de la Fenêtre Ouverte en fait, qui est une maison d'édition, qui est une émanation de la revue des Primaires. Vous voyez, donc tout est lié, je dirais, par rapport à ce contexte-là. Alors sur cette image, nous avons mis donc la dernière évidemment édition aux éditions de l'Arbre Vengeur donc de Queen's Azazili. Il y a eu beaucoup de traductions du roman également et puis donc l'édition originale évidemment de 1935 de ce roman post-apocalyptique. Voilà. Alors simplement, par rapport aux hypermondes, pour convaincre, par exemple, de l'intérêt, parce que c'est totalement nouveau en France, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas, pour convaincre de l'intérêt de la collection des hypermondes, dans la présentation que Régis Messac en fait anonymement à l'occasion donc, du lancement de la collection, Il nous dit que celle-ci est conçue dans un esprit tout nouveau et ajoute que cette collection répond au désir, en apparence irréalisable, de fuir hors du monde. Toute une série d'esprits neufs, ingénieux, féconds, n'ayant pu trouver d'autres mondes, ont résolu donc de les créer. Vous voyez, donc, Régis Messac était vraiment à l'avant-garde de la science-fiction moderne. Ça, je pense que vous avez compris, donc, grâce à ces différents éléments. Voilà. Jérôme, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière pour Néania ? Alors, et oui, je suis désolée, je n'ai pas la maîtrise. Recule un petit peu, donc ça c'est... Voilà, donc on s'arrête là. Je n'ai pas la maîtrise du PowerPoint en étant ici, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, ma deuxième partie, je dirais, va être consacrée au parcours donc, du pacifiste Régis Messac. Parce que si Régis Messac, évidemment, s'est engagé dans la résistance, même si, bien sûr, ce n'était pas un combattant, mais c'était quelqu'un qui a donc été arrêté pour fait de résistance par les Allemands, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait des convictions profondes, évidemment, politiques, donc pour la paix. Et je vais vous montrer dans cette seconde partie, justement, comment est-ce que Messac, enfin son parcours en quelque sorte, c'est aussi bien sûr le titre de cette conférence-là, comment Régis Messac est devenu véritablement donc un pacifiste convaincu. Alors, la première chose évidemment, c'est que Régis Messac a été donc évidemment engagé, je dirais, contre la guerre sous toutes ses formes. Et cet engagement, eh bien, il est né dans les tranchées en 14-18. Alors, le 2 août 1914, Régis Messac est en cagne au lycée Condorcet à Paris. Il prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Ce jour-là, le jour de ses 21 ans, il est mobilisé en décembre donc 1914. Alors, lors de ces... tout ça, il le raconte dans un roman autobiographique qui a été publié anonymement et qui s'appelle donc Le voyage de Néania à travers donc la guerre, à travers la guerre, oui, et la paix. Alors Néania, le nom de ce personnage, c'est celui en fait qui, en grec, c'est celui qui naît. Si vous voulez, il y a chez Régis Messac, il faut bien comprendre, dans Queen Zanzili, son personnage s'appelle donc Escato. Escato, enfin c'est le titre qui se donne, c'est évidemment l'escatologie. C'est le poète en grec de la fin dernière, c'est-à-dire celui qui raconte la fin du monde. Et Néania, c'est celui qui va naître. Donc pour Messac, finalement, son personnage autobiographique, bien sûr, est celui donc qui naît. Son personnage et lui, sa personnalité de pacifiste, son engagement donc évidemment personnel et politique, va naître donc dans ces tranchées de 1914. Et c'est ce qu'il raconte. Alors je vous recommande, moi j'ai lu donc cette année puisqu'il a été réédité donc cette année, j'ai lu ce texte. Et c'est un texte qui est absolument fondamental. Et qui explique beaucoup de choses sur la guerre de 14. Alors non seulement évidemment des éléments biographiques hein, sur Régis Messac, mais aussi un témoignage donc de plus et inédit. Alors évidemment c'est pas le feu de Henri Barbusse, mais je trouve que c'est extrêmement pertinent pour comprendre notamment l'engagement, je dirais, comment ces jeunes hommes étaient engagés dans cette guerre de 14 de façon totalement absurde, avec des militaires qui les forment de manière, je dirais, terrible. Mais encore une fois, Régis Messac insiste sur l'absurdité, je dirais, non seulement de cette guerre, de cette formation, de la hiérarchie militaire de l'époque. Donc ça, c'est vraiment très important pour cette raison-là. Alors pendant la guerre de 14, Régis Messac est blessé à la tête. Il a une balle qui lui perfore le crâne et il doit être trépané, ce qui va évidemment provoquer chez lui une sorte de paralysie qui sera, je pense, peut-être provisoire. Hein, ça n'a pas été...
provisoire, mais il conserve malgré tout des séquelles.
Voilà, il a quand même eu évidemment beaucoup de séquelles. Voilà, et il met à profit donc sa convalescence pour achever la préparation de sa licence S-lettres, puisqu'il poursuivait donc ses études, qu'il obtient donc en juillet 1915, mais il est de nouveau évidemment mobilisé dans les rangs donc du service auxiliaire jusqu'en 1919. Donc son premier roman, Le voyage de Néania, est publié en 1926 et donc véritablement les tribulations évidemment militaires de ce jeune homme sont un décalque de celles vécues par Régis Messac. Alors plutôt voyez que je dirais sur plutôt qu'insister sur l'image tragique des tranchées, les massacres évidemment de 1914-18, donc Messac va insister plutôt sur le discours très creux, très superficiel de la défense de la patrie. sur l'absurdité de sa formation, évidemment, de soldat, et aussi, et ça c'est quand même quelque chose qui est totalement singulier, sur les sanctions, les atroces sanctions, donc évidemment réservées aux déserteurs, mais également sur la saleté, le manque de sommeil. Et il brosse ainsi, ça c'est du Messac, plutôt un tableau sarcastique du décor de la Grande Guerre. Extrait. On lui avait appris qu'il fallait se brosser les dents et se débarbouiller chaque jour, aimer ses parents, brosser ses habits et faire en chantant le sacrifice de sa vie pour sauver sa patrie. Il songeait qu'il avait 20 ans et qu'il allait mourir. À cette pensée, il se remémorait la scène du déserteur fusillé. Il revoyait la meule à demi pourrie, le bandeau, le mouchoir et la pâleur du misérable. Quand je songe au monde de fous où je suis tombé, aux stupidités révoltantes auxquelles on m'a contraint, quand je songe que je n'ai pas vu l'oreille d'un seul ennemi, mais que j'ai vu l'un des nôtres tué par ses camarades, que je ne me suis jamais battu, sinon avec les poux et mon capitaine. En vérité, c'est la vie qui me paraît la plus absurde et le plus dément des cauchemars. À son père, qui lui demande de retourner au lycée en 1919, après sa démobilisation, Néhania Messac lui rétorque qu'il souhaite désormais trouver un emploi. « Mon père ne l'entend pas ainsi. Tu ferais mieux de renoncer à cette chimère. J'aurais cru pourtant que la guerre t'aurait mis du plomb dans la tête. » Ce n'était pas du plomb, c'était du maïchor, dit amèrement Néhania. Voilà, bon, je ne peux pas évidemment tout vous lire. Alors, il y a un second roman donc qui est pour l'instant à l'état de manuscrit, qui s'appelle donc Ordre de transport, qui a été écrit en 1934, mais qui pour l'instant n'a pas été, Olivier, publié. Voilà, bien. Et donc, c'est à partir des années 30 que Régis Messac s'engage politiquement et publiquement donc pour le pacifisme. Alors attention, parce que Messac, il ne faut pas le voir, si vous voulez, par exemple, ce n'était pas du tout un communiste. Et selon le journaliste François Fonviel-Alquier, tu peux, Jérôme, alors attends, on va avancer. Encore, voilà, on est ici. Messac se défiait des grands partis organisés de la gauche et leurs préférés, les groupements anarchisants, trotskisants, les minorités syndicales et autres formations fantômes, donc dit Fonviel-Alquier, soumises à des conflits, des tendances et des scissions périodiques. Messac est adepte de la non-violence, théoricien de la paix, et membre dans les années 30 du comité directeur de la Ligue internationale des combattants de la paix, aux côtés de Félicien Chalet et de Robert Jospin. Il se revendique pacifiste actif, et il se flatte de n'avoir jamais notamment utilisé une arme contre l'ennemi et déclare le 4 septembre 1943, je vais y revenir bien sûr après, lors de son procès devant le tribunal militaire allemand, de n'avoir jamais ni professé ni prêché la haine contre les Allemands, être prêt à serrer la main du soldat allemand qu'il avait blessé d'un coup de feu au début de la guerre de 1914. Dès le début des années 30, Régis Messac pressent la montée des périls, qu'il a d'ailleurs, je dirais, métaphorisé, allégorisé dans son roman Queen Zanzili. Voilà, et donc il faut relire Queen Zanzili pour comprendre que dès 1935, il avait bien évidemment anticipé totalement sur la montée des périls, vous voyez, entre 1937 donc, et 1940. Voilà, je vous lis deux passages. En septembre 1935, Messac écrit dans les primaires. À l'heure où nous écrivons, les chances de guerre l'emportent sur les chances de paix entre l'Italie et l'Éthiopie. Et de nouveau, dans le cœur des hommes, futures victimes des dieux qui président à leur destinée, l'inquiétude se glisse et aussi, hélas, la résignation. Avril 1936. Jamais depuis la guerre nous n'avons vécu des jours aussi menaçants. Jamais nous n'avons scruté les journaux, écouté les haut-parleurs avec autant d'impatience et d'inquiétude. De la violation du pacte de Locarno, la guerre surgira-t-elle ? Les patients, difficiles et tenaces efforts des irréductibles pacifistes vont-ils être annihilés? La violence imposera-t-elle au monde de nouvelles horreurs, une nouvelle nuit au monde? Nous nous refusons au désespoir. Octobre 1939. La guerre est déclarée. Nous partons. Le livre de compte est ouvert. Sur les feuilles blanches, nous écrirons l'histoire de ces dernières avec l'espoir de les publier un jour. Voilà, elles seront évidemment publiées, mais beaucoup plus tardivement. Ce qui me fait donc évidemment passer à ma troisième partie, donc qui va être consacrée, la partie la plus tragique évidemment de la vie de Régis Messac, que j'ai intitulé De pot-pourri fantôme. Tu peux avancer, Jérôme. Voilà. De pot-pourri fantôme, chronique des années de guerre et d'occupation à nuit et brouillard. Voilà. Alors, ça, ce sont, je dirais, c'est peut-être un écrit que vous connaissez beaucoup moins, mais c'est un écrit qui a été publié en 1958, grâce à son fils, évidemment, Ralph, mais qui, bien sûr, n'avait absolument pas été publié donc, dans les années, au début des années 40. Alors, ses premiers écrits, donc avant, je dirais, ce pamphlet, qui est une sorte de journal de la France sous l'occupation, nous les retrouvons dans un article de novembre 1939, Feuilles volantes destinées aux primaires. Et donc, ce sont, ces, je dirais, les derniers écrits de Régis Messac dans les primaires. Régis Messac, dans une réflexion mélancolique, le futur peut-être pour échapper au présent, revient à la science-fiction. Signé, mais ce texte, signé d'ailleurs du pseudonyme de Jehan Fabian, sera frappé à trois reprises par la censure. Il fait clair de lune ce soir, dans le récit étriqué et en contrebas, que l'on appelle pompeusement mon bureau, j'ai négligé d'allumer la lampe à l'abat-jour ébréché. Du fond du fauteuil de cuir copieusement griffé par les chats, j'absorbe du regard la soie du fluide bleu qui s'épanche sur le jardin. Et puis il y a par-dessus tout la lune. Cet astre où mes amis, les ingénieux et imaginatifs rédacteurs des Amazing et Wonder Stories, ont logé tant de choses surprenantes. C'est là que Conway, le héros de Jack Williamson, trouva un monde étrange, le peuple de cerveaux immortels logé dans des automates de métal. Et je songe à ce que je verrai dans la lune à mon tour si j'y allais. Je songe, je flotte plutôt. Des pensées amères ou douces amères, falotes, baroques, injustifiées, ou qui me paraissent merveilleusement justes, se succèdent. Pensées d'avant minuit, d'avant le sommeil et les rêves qui leur ressemblent. Vais-je les noter ? Oh, s'il faut céder à l'habitude de décrire, autant que ce soit autre chose. Et donc, pour moi, enfin ça c'est quelque chose, après bon, on pourra en discuter, mais le premier acte de résistance, c'est donc l'écriture de ce pot-pourri fantôme, donc qui ne sera édité qu'en 1958. C'est un véritable réquisitoire contre le régime de Vichy, écrit entre 1939 et 1942. Structuré comme l'Odyssée, hein, moi je n'oublie jamais évidemment que Messac a fait des études classiques, sous forme de chant. Il alterne des formes poétiques ironiques et une narration sarcastique lyrique. Mais voilà que toute la rue se peuple de morts, d'échafaudages écroulés, de taxis en folie, des gangsters en sugis de sous les pavés, cuirassés d'une bobine de mitraillette. Tous les coins de rue se sont écornés par des bombes soudaines, et le ciel s'est obscurci d'oiseaux noirs. Et c'est à nous que ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive au monde entier. Alors ce furent les horreurs de la décomposition. Paris merdoyant dans la boue et la brume du blackout. La conscience des peuples merdoyants et foirants dans les flots brumeux et vaseux de bobards rancis. Et les affiches map-monde illustrant les murs de leur lèpre rose. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Attention, la parade commence, place aux jeunes, s'écrie le maréchal Pétain du haut de ses 85 ans. Et la présidente de la Ligue contre l'antisémitisme s'empresse de lui offrir ses services pour chasser les juifs. Il s'agit, déclare l'un de savants Mirliflor, Pétain évidemment, de refaire la nation chez nous, entre purs gaulois, chez nous, sans juifs et sans métèques, enfin débarrassés de ces affreuses figures de Youtre. Et il contemple avec une satisfaction sans mélange les uniformes verts qui se pressent dans les rues. Les bâtons de maréchal poussent dans les ruines. J'adore cette dernière expression. Voilà. Donc de bout en bout, Régis Messac va s'engager dans la constitution d'une fraction, d'un groupe de résistance, alors qui s'appelle ironiquement le Front National ou Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, un mouvement de résistance donc communiste qui s'est développé dans la Manche à partir de mai 1941, puisque Messac était à cette époque donc en poste professeur donc à Coutances. Cependant, et là j'arrive donc évidemment sur la période tragique, alors il est arrêté sur dénonciation d'une jeune femme qui s'appelle Suzanne Crevon. Tu peux avancer, Jérôme, s'il te plaît ? Voilà. Alors, reviens un peu en arrière. Voilà. Donc Olivier m'a donné ce document qui est tout à fait exceptionnel, qui est un document journalistique et qui nous montre, alors évidemment, on n'a pas de document, si vous voulez, au moment de la dénonciation, mais qui nous montre évidemment comment ce groupe... Alors, c'était en fait, c'était qui ces personnes, puisqu'on va parler de collaboration ce soir ? Eh bien, c'était des Français qui avaient été donc... avec des profils mais totalement différents, j'ai pas le temps évidemment de développer ici, mais donc un groupe de Français qui avait été donc engagé par la Gestapo de façon volontaire pour justement eh bien créer donc des essayer de trouver des gens que l'on pouvait dénoncer, donc des surveillances, je dirais, de personnes. Pourquoi ? Essentiellement pour des motifs de vengeance, des motifs évidemment totalement, je dirais, voilà, pour l'argent aussi, bien sûr, puisque les Allemands les payaient très très bien. Et donc cette jeune femme de 21 ans, qui est finalement responsable de la dénonciation du groupe et de la mort donc de Régis Messac, eh bien, a été condamnée à mort donc en 1945. Voilà. Et donc Messac est arrêté à Coutances le lundi 10 mai 1943. Et il est envoyé à la prison de Saint-Lô jusqu'en octobre 1943. C'est là qu'il va subir donc un procès collectif et il est condamné donc et déporté Nacht und Nebel au camp de concentration dont de Narzweiler-Struthof. Alors, je voulais simplement vous rappeler qu'est-ce que veut dire donc la désignation nuit et brouillard, donc Nacht und Nebel en allemand. C'est en fait le nom du décret du 7 décembre 1941 qui ordonne la déportation, je cite, des ennemis du Reich transférés en Allemagne, d'où ils disparaîtraient à terme dans le secret absolu. Cette mesure était considérée comme devant avoir un effet de terreur sur les habitants des territoires occupés. Alors les éditions Ex Nihilo, évidemment, au nom significatif, Olivier, vous pourrez en parler peut-être après un tout petit peu, ont publié en 2005, sous le titre donc de « Lettres de prison », les billets clandestins que Régis Messac, Jérôme, tu peux... voilà, ces lettres de prison, donc ça c'est les éditions... voilà, tu peux avancer un peu. Voilà. Donc tous les billets, donc sur un, évidemment un très mauvais papier, un tout petit papier, donc très très fin, que Régis Messac donc écrivait et envoyait à sa femme Germaine. Ces billets sans date ont été présentés donc lors de l'édition par l'éditeur, suivant une chronologie aléatoire, compris entre le 12 mai et le 7 octobre 1943. Alors si la très grande majorité des billets est consacrée à des détails pratiques, comme vous pouvez évidemment le constater, c'est que l'envoi de linge, mais aussi de livres, parce que Régis, jusqu'à la fin quasiment, a demandé donc à sa femme et de toute façon a essayé de lire et d'avoir une activité intellectuelle, voire une activité de professeur donc dans les camps, donc de livres, de dentifrices, de biscuits. Eh bien, l'envoi de ces petits objets était essentiel pour supporter la captivité. La dernière lettre non clandestine est pour son fils Ralph, qu'il appelle la Fouf. Et vous le voyez donc dans ce petit billet, qui est daté donc du 5 septembre 1943, c'est pas celle-ci, hein, rapporte la sentence prononcée par le tribunal allemand. J'étais l'avant-dernier dans l'ordre d'accusation sur 16. Le temps passait et les taux de strafe, peine de mort, se multipliaient. Je sentais un petit vent me passer sur la nuque. Enfin, arrive mon tour. Also den Messac. Il me consacre à peine quelques minutes, ayant sans doute hâte d'en finir et avant d'avoir bien compris ce qu'il me reprochait. J'entends la formule tranchante. « Für ihm also die Todesstrafe. » On a beau se redire, ça fait un petit effet désagréable. « Tâche de bien travailler. » Là, il s'adresse à Ralph. « Et ne te fatigue pas trop, la Fouf. Un de mes regrets est de ne plus pouvoir m'occuper de toi. Je t'embrasse affectueusement. » Alors, une des grandes préoccupations de Régis Messac, même dans ces terribles conditions, fut le travail scolaire de ses enfants. Il est resté digne et courageux jusque dans l'annonce de sa propre mort, tout en connaissant parfaitement bien les conditions de vie concentrationnaires. Il est donc déporté au camp du Struthof entre le 11 novembre 1943 et le 10 juillet 1944. Plus aucun écrit de Régis Messac à partir de ce moment-là, mais des témoignages de ses compagnons de captivité. Alors ça, c'est témoignages, donc je fais des petits extraits donc, que je vais vous lire. Tu peux avancer, Jérôme. Voilà, merci. Donc ça, c'est une lettre de Marcel Leclerc, qui a donc été un de ses compagnons d'infortune, qu'il a écrit à Germaine Messac donc en 1945. Lettre qui a été 48. Oui, pardon. Lettre qui a été retrouvée très très récemment et qui, vous voyez, est sur du papier. Enfin, ça, c'est des archives extrêmement fragiles. Alors, Eugène Le Petit écrit en 1977. En 1944, j'ai retrouvé Brûlé, qui est un des compagnons de Messac. Et Messac, méconnaissable, amaigri, vieilli, à la suite des mauvais traitements, des privations et de la longue distance qui séparait le lieu de travail de leur cantonnement. Les conditions de travail sont si dures que Franck Hollon, un autre donc compagnon, meurt en 1944. Donc Marcel Leclerc, en 1948, à Germaine-Messac. Vous n'êtes pas sans connaître les souffrances terribles que nous avons dû subir. Je peux dire que Régis et moi avons été de ceux qui ont le plus souffert dans cette première période de détention, car nous étions les seuls intellectuels au Mont-Blanche de notre convoi, et le travail dans la neige nous a été très pénible. Après 2 mois de cette vie d'enfer, un adoucissement de nos maux se produisit. Régis fut admis à l'infirmerie et bien soigné. Une des grandes joies de votre mari fut de retrouver au camp la préface qu'il avait publiée sur le livre d'avant-garde « La guerre du lierre » que nous avions déniché en ce lieu perdu. Il était heureux que j'aie lu aussi « Queen Zinzinzili ». Régis Messac fut rejugé en Allemagne par le tribunal du peuple à Breslau, en Silésie, le 10 juillet 1944. Toujours Eugène Le Petit. Le 18 juillet 1944, Brûlé, Messac et moi furent envoyés au pénitencier de Brigue. Le 13 octobre 1944, le pénitencier est vidé de ses prisonniers qui sont envoyés à Gross-Rosen, véritable enfer, où Brûlé mourra le 17 novembre. C'était l'hiver, froid, neige, travaux pénibles, coups. Dans ce camp, de l'intérieur de ma baraque, je vis une seule fois passer Messac. Il faisait partie d'un convoi d'inaptes au travail qui s'en allait peut-être aux douches. Il marchait difficilement et il était d'une maigreur extrême. C'est la dernière fois que je l'ai vu. En février 1945, les déportés du camp de Gross-Rosen sont évacués à Dora. Témoignage anonyme d'un détenu médecin rapporté par Jean-Michel dans son livre « Dora » en 1975. Le camp de Dora. Tu peux avancer, Jérôme ? Voilà, donc ça c'était le plan du camp donc, de Natzweiler-Strotow, alors qu'il est quand même à 80 km d'Épinal. Je me suis dit que c'était peut-être c'était intéressant évidemment de le remarquer. Donc tu peux avancer après, Jérôme. Voilà, donc là, Olivier Messac m'a donc très gentiment passé un certain nombre de photos donc, que nous avions donc, de ce camp du Strotow. Toutes les baraques aujourd'hui ont disparu, il n'y en a qu'une seule qui a été évidemment reconstruite, à titre donc bien sûr didactique pour montrer ce qu'était le camp. Tu peux avancer, Jérôme, un petit peu. Voilà. Donc là, c'était sur le camp de Dora, mais ce que je vous dis, c'était sur Dora. Mais là, vous avez une illustration donc d'Henri Gaillot, la fin, avec également donc le gibet du Strotow. Voilà. Tu peux avancer aussi. Donc toujours, on avance encore un petit peu. Voilà, et on s'arrête là. Donc, témoignage anonyme d'un détenu médecin rapporté par Jean-Michel dans son livre Dora en 1975. Le camp de Dora était l'enfer de tous les camps de concentration. On pendait jusqu'à 57 déportés par jour avec une grue électrique qui en soulevait 12 à la fois. Les SS laissaient mourir de faim, de typhus, d'œdème, de carence, donc de dysenterie. Le dernier témoignage prouvant que Régis Messac était encore en vie le 15 février 1945 est une lettre datée du 20 avril 1945. Pierre Nevers à Germaine Messac. Madame, j'ai été libérée comme ancien prisonnier de guerre. J'étais avec votre mari au camp de concentration de Gross-Rosen. Il était en très bonne santé et son moral était excellent. J'ai été séparée de lui vers le 15 février 1945 et depuis cette date, je n'ai plus de ses nouvelles. J'espère que bientôt il sera de retour. Prenez patience, leur libération est proche. Courage et meilleures salutations. Attendez, on va laisser la porte. Voilà. En mars 1945, les déportés de Dora sont évacués sur celui de Bergen-Belsen. Nous perdons dès lors toute trace de Régis Messac. Nous ne sommes sûrs de rien. Il n'est même pas avéré qu'il soit arrivé à Dora. S'il avait réussi à survivre aux conditions inhumaines du camp de Dora, sa très grande faiblesse ne lui aurait pas permis de supporter le transport vers Bergen-Belsen. Donc ça, c'est une photo des marches de la mort, où les SS aux abois assassinaient les déportés encore en vie. Il a pu également mourir dans ces évacuations chaotiques entre les camps, prétexte pour assassiner les déportés, donc appelés « marche de la mort ». Alors en conclusion, et avant de passer au débat, on aura un petit quart d'heure, nous avons voulu aujourd'hui, en ces jours anniversaires donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donner un éclairage particulier au destin tragique de Régis Messac, homme engagé, intègre, convaincu qu'il fallait se battre pour la paix en des temps qu'il jugeait absurdes et empreints d'une folie inéluctable. Je laisse son fils Ralph évoquer sa disparition dans l'article consacré à son père dans l'anthologie des écrivains morts à la guerre. En 1958, quelques amis de Régis Messac se sont réunis pour m'aider à publier un petit inédit, Potpourri fantôme, d'où j'extrais encore ces vers, tu peux avancer Jérôme, si douloureux à lire lorsqu'on pense à la fin de leur auteur. Du temps que j'étais enfant, sur la couverture de mon livre d'exercice, on voyait une figure de femme disant « Je sème à tout vent », une figure de jeune fille au front lisse, qui soufflait en souriant sur un panache duveteux de houppes de pissenlit, dont les akènes allaient se dispersant au vent, légers comme des étoiles de feu d'artifice. Le pissenlit est presque une plante d'ornement. On l'appelle aussi vulgairement « Tararaxum dens leonis », d'après les croyances populaires. Sa racine formerait l'aliment de base des refroidis. Ça doit être pour ça que maintenant, j'y pense si souvent. Alors voilà, la créativité littéraire de Régis Messac reste encore à explorer. Il y a encore évidemment des textes inédits, des romans autobiographiques comme « L'homme perdu »,« L'homme assiégé » ou « L'homme enragé », des romans policiers, « Hardinguera », « Quinis incinerem » ou mieux encore la Top d'or, publiée en feuilleton dans le quotidien entre 1934 et 1935. La grande diversité de cette œuvre inédite à découvrir sera l'occasion évidemment de redonner vie à cet écrivain auquel l'histoire n'a pas laissé suffisamment de temps. Donc découvrez, pour ceux qui ne le connaissaient pas, découvrez et lisez Régis Messac. Merci. Tiens, voilà.